Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une rencontre au sommet à laquelle je vous invite aujourd'hui entre Dostoïevski et Julia Kristeva. La linguiste, psychanalyste et romancière, célèbre et maintes fois honorée dans le monde entier, revient en effet sur l'écrivain russe qu'elle a lu en Bulgarie, son pays natal, et qui n'a cessé de l'accompagner depuis. Publié dans la collection « Les auteurs de ma vie » chez Buchet-Chastel, ce livre intitulé tout simplement « Dostoïevski » est composé à la fois d'un essai et d'une anthologie avec des textes issus de « Crimes et châtiments », mais aussi « L'idiot »,« Les démons » et « Les frères Karamazov », entre autres. Quel est le lien entre celle qui se présente toujours comme une étrangère, plus d'un demi-siècle après son arrivée à Paris, et celui qui a connu le bagne et l'exil en Sibérie il y a plus de 150 ans, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans cet entretien qui s'est déroulé chez Julia Kristeva. Et pour commencer, entrons dans le sujet avec un extrait de Crimes et châtiments lu par Pierre-François Garel dans une version audio aux éditions Télème.
Il portait un vieux frac noir, complètement en loque, dont les boutons étaient tombés. Un seul tenait encore, à peine, et c'est ce bouton-là qui lui servait à se boutonner, lui qui visiblement ne voulait pas déroger aux convenances. Sous son gilet de nankin, on voyait une chemise, toute froissée, salie, graisseuse. Son visage était glabre, comme celui d'un fonctionnaire, mais il s'était rasé depuis déjà longtemps et des poils bleu-noir commençaient à poindre par touffes. Même dans ses attitudes, il y avait réellement quelque chose comme une gravité de fonctionnaire. Mais il était inquiet. Il se passait la main dans les cheveux et, plein d'angoisse, il se prenait de temps en temps la tête dans les mains, ses coudes râpés posés sur la table gluante et trempée. À la fin, il regarda directement Raskolnikov et prononça d'une voix ferme et sonore «
Oserais-je, mon bien cher monsieur, me tourner vers vous pour une conversation toute de bienséance ?»
Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Vous avez découvert Dostoïevski toute jeune, en Bulgarie, et pourtant cette lecture était fortement déconseillée par votre père qui disait, je vous cite, « destructeur, démoniaque et collant, trop c'est trop, tu n'aimeras pas du tout, laisse tomber, fermez les guillemets ». Ce qui ne vous a pas empêché ni de continuer, ni d'aimer le géant russe, mais est-ce parce que vous aviez senti que cette œuvre allait devenir importante pour vous ou c'était pour transgresser l'injonction paternelle?
Je crois que c'est la deuxième raison qui, à l'époque, m'habitait, parce que j'étais celle qui répondait. On disait ça, cet enfant répond. Et maman, qui avait fait des études de biologie et ne partageait pas vraiment les élans théologiques et dostoïevskiens de mon père, mais c'était une femme bien élevée, elle ne protestait pas, et c'est moi qui portais la contestation. Donc, moi, je me suis tout de suite plongée dans du Dostoïevski, qui m'a engloutie.
C'est ce que vous dites, vous avez perdu pied dans cette lecture, pourquoi?
Parce que c'est un texte dévorant. À un moment donné, en écrivant ce livre ces dernières années, parce que on est en train de faire le grand écart de mon enfance maintenant, je pensais que je pourrais l'appeler la crue du langage. Il y a une telle abondance de verbes, une telle jouissance dans le verbe à la fois criminel, pardonnant, jouissif, mortifère, que vous êtes infiltré, vous êtes emporté, vous êtes englouti.
Donc c'est un vertige en effet.
Et c'est un vertige de vérité. Et donc, j'étais un peu perdue.
Peut-être trop jeune. Et pourtant, votre père aimait cet auteur, aimait Dostoïevski.
Oui, mais il ne me voyait pas dans le domaine russe, parce que la Russie était notre grand-père envahisseur. Et il pensait que mon esprit, selon lui, cartésien juste, méritait mieux. Et il m'avait inscrite à l'école maternelle des Dominicaines, qui a été reprise par l'Alliance française par la suite. Et donc, je devais aller du côté de la raison et de la clarté. Et donc, j'ai abandonné Dostoïevski pour La Fontaine, Victor Hugo, Rousseau, etc. Et j'ai fait philologie française.
En d'autres termes, est-ce que votre père pensait, lui qui n'était pas communiste dans un pays qui l'était en revanche, que pour vous sortir de l'intestin de l'enfer,
c'est son expression,
métaphore de la Bulgarie, Dostoïevski aurait pu être un obstacle pour votre éveil, Julia Kristeva?
Oui, pour sa religiosité de Dostoïevski, on en parlera, mais pour la plupart de ses lecteurs, c'est surtout le slavophile, l'orthodoxe, l'homme de la foi. Et c'était donc un obscurantiste pour l'éducation que je recevais en Bulgarie, une ennemie du peuple, même si dans les coulisses, c'était l'époque aussi du dégel, donc il y avait de tout, mais dans les coulisses, à l'Académie des sciences, dans l'université, beaucoup de chercheurs travaillaient sur Dostoïevski, découvraient sa force de pensée, son côté contestataire de toute idéologie, pas seulement de la foi qui était la sienne et qu'il décomposait, mais aussi du nihilisme révolutionnaire qu'il avait à un moment donné endossé, ce qui lui a valu d'être renvoyé au bagne. Mais cette pensée corrosive était pour nous quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, on se rend pas compte maintenant, mais ce qu'on appelait les dissidents étaient portés moins par la philosophie qui n'existait pas, la philosophie contemporaine, une philosophie idéologique pro-anti-marxiste, mais par la théorie littéraire et la littérature. Et on trouvait dans Dostoïevski et dans ceux qui travaillaient sur lui et qui vivaient ce côté contestataire, complexe, révolté, révoltant de son œuvre, parmi lesquels un dénommé Bakhtine, qui était très à la mode, eh bien pour nous c'était une arme de contestation. Et moi, je dis parfois que je suis en France à cause du général de Gaulle et à cause de Dostoïevski.
Ah oui?
Ben oui, parce que le général de Gaulle m'a donné une bourse qu'il donnait à des jeunes qui travaillaient sur des sujets français, et je travaillais sur le nouveau roman. Mais je suis arrivée dans mes bagages avec le livre de Bakhtine sur Dostoïevski, et j'ai présenté Bakhtine à Roland Barthes, qui m'a fait parler de Bakhtine et de Dostoïevski à son cours, et c'est ainsi que je suis restée en France avec une bourse.
Alors c'est une œuvre qui est née et qui s'inscrit d'ailleurs dans une vie hors norme, puisque Dostoïevski, encore jeune, qui fréquentait un cercle révolutionnaire, a donc été arrêté en 1849, condamné à mort, mais finalement envoyé au bagne, ensuite assigné à l'exil en Sibérie. Mmh. 10 ans qui vont nourrir ses livres et donner un contour particulier à ses personnages. Et on trouve la trace forcément de cette expérience personnelle dans ses livres. Est-ce que c'est aussi parce qu'il est question d'injustice, d'abus de pouvoir, que ces thèmes vous touchent, parce qu'il a été privé de liberté, vous qui avez grandi dans un pays où la liberté était chère aussi?
Dostoïevski vivait dans un monde qui est privé de liberté, mais il ne s'est jamais privé lui-même de liberté. Il montre comment, y compris dans le régime tsariste et peut-être dans un régime totalitaire, il y a des issues. Et l'issue, c'est l'écriture. C'était la foi, évidemment. C'est un grand mystique orthodoxe. Mais il n'a jamais considéré que la liberté doit venir de l'extérieur. Et toutes les idéologies qui portent une espèce de poussée vers la liberté, il prévenait qu'elles peuvent être aussi extrêmement liberticides.
Et c'est cette liberté aussi
que... par le travail de l'écriture et la liberté qu'on conquiert soi-même sous le joug de l'oppression que la survie vient.
C'est la voie que vous avez choisie, Julia Kristeva.
D'une certaine manière, c'est la voie freudienne. Il n'y a pas de liberté autre que singulière et elle se conquiert au jour le jour.
Et celle que l'on choisit donc. Je fais juste une petite parenthèse, Julia Kristeva, si vous permettez. Est-ce que la psychanalyste que vous êtes aurait aimé avoir Dostoïevski comme patient?
Ah, il ne serait jamais patient. Il a trouvé son remède ou sa survie dans l'écriture.
Mais vous auriez aimé le rencontrer et en parler avec lui?
En parler, oui. Mais je pense qu'il n'aurait jamais été quelqu'un qui prenne une position de se livrer à quelqu'un d'autre parce qu'il faisait cette œuvre analytique, mais vous avez raison, il y a quelque chose d'analytique dans son travail, à travers des monologues interminables de chacun de ses auteurs, qui sont ces monologues. Chacun de ces personnages, y compris une femme, Nastassia Philipovna, ou un pédophile, Stavrogin, c'est lui. Il essaye de le dire en creusant la langue dans d'interminables phrases qui rappellent la phrase de Proust. Et beaucoup se demandent aujourd'hui si Proust n'a pas copié, avec tous les guillemets, en tout cas transposé Dostoïevski, même s'il l'aimait beaucoup en parlant du côté Dostoïevski de Madame de Sévigné, disait-il. Mais la phrase de Proust a quelque chose de Dostoïevski, de la phrase de Dostoïevski. Cette crue, justement, cette traversée dans les replis de la morbidité et du plaisir, mais qui n'est pas le grouillement névrotique, qui n'est pas le gémissement au retors. Et ces deux livres qui marquent la différence entre Dostoïevski névrosé des premières années avant le bagne et Le grand écrivain de la fin, c'est La maison morte, qui est le livre sur le bagne, qui est l'enfer, mais en même temps avec une fascination pour la souffrance humaine et pour les musulmans avec lesquels il essayait nouer une compagnie. Et le deuxième livre qui sort de là, c'est Le sous-sol.
Oui.
Où il est méchant, il est malade, il est contre l'humanité. Et c'est à partir de là que vont naître les grands romans.
Oui. Est-ce que vous êtes aussi touchée par la place du corps en souffrance chez Dostoïevski, qui par ailleurs souffrait d'épilepsie?
C'est très intéressant. Je vous remercie de votre question parce que beaucoup de commentateurs en France l'ont enfermé soit dans l'orthodoxie, soit dans l'existentialisme parce qu'il montrait l'absurdité de la vie. Et c'est en effet un thème important. Et moi, j'étais beaucoup intéressée par justement l'expérience sexuelle, sensorielle, le corps. Mais c'est un corps qui ne se livre pas comme un objet. On a du mal à trouver des scènes érotiques ou un visage bien peint. C'est toujours des profils, des détails, un corps fuyant. Le corps, pour Dostoïevski, c'est le langage. Et c'est l'idée. Et il rend la langue corporelle et l'idée physique. Et c'est ça qui est extrêmement fascinant.
Je reste encore un instant sur ce corps qui peut être en souffrance, parce que ça vous touche aussi, Julia Kristeva, cette question de la maladie, en particulier des maladies neurologiques.
Il ne parle pas beaucoup de sa maladie, mais il a toujours pensé qu'il allait survivre probablement à cela, et c'est aussi une source de foi pour lui. Mais le personnage de Mitchkine est un épileptique, et quand il écrit l'idiot, les carnets de l'idiot sont des carnets de ses crises épileptiques. Donc cette hypersensibilité, il a réussi non pas à la vaincre, mais à l'écluser, à la traduire dans un langage. Et ça m'intéresse évidemment par rapport à mon combat autour du handicap,
de
la vulnérabilité, et que nous avons rencontré récemment avec le virus qui est extérieur, mais quand il est en nous, il nous rend exposés à une vulnérabilité pour laquelle il n'y a pas de remède voilà. autre que la capacité de pouvoir partager le mal-être pour l'instant, avant que le vaccin arrive.
Oui, vous avez sans doute, Julia Kristeva, une lecture plus particulière et plus singulière de Dostoïevski, dans la mesure où, en effet, je le rappelle, vous avez été chargée de mission auprès du président de la République française, Jacques Chirac, pour les citoyens en situation de handicap. Donc, vous avez un regard plus particulier aussi sur cette œuvre, qui n'est peut-être pas perçue par d'autres exégètes.
Ce qui est très curieux chez Dostoïevski, c'est que sa maladie ne l'a pas rendu fixé à ce problème. Mais il a transposé cette radicalité, ce fait de vivre à la limite de la vie, comme je le disais, dans toute chose et dans toute situation. Cette survivance, il l'a transformé en une feuille de route, en quelque sorte.
Et j'ai l'impression qu'il y a un état d'urgence de la vie que voilà. Vous partagez, vous aussi, Julia Kristeva, avec l'écrivain.
Je ne sais pas si ça me vient de là ou si c'est quelque chose qu'on trouve dans les religions. Il parle beaucoup de la mort, mais il parle beaucoup de l'espoir, de la survie. Le thème de la résurrection est un thème chrétien. Lui, il s'appuie là-dessus.
Et vous, elle vous vient d'où ? Il vous vient d'où cet état d'urgence de vie, Julia Kristeva ?
Moi, je crois que toutes les femmes l'ont, si elles ne succombent pas à la mélancolie qui nous habite aussi et à la somatisation. Mais si on arrive à être lucide par rapport à nos capacités de soigner les autres et nous-mêmes, et de créer des liens, le lien à l'enfant, à l'amant, au père, aux autres. Et il y a ce côté-là, quand vous lisez Dostoïevski, vous êtes emporté et vous êtes confronté constamment au crime et au mal-être. Et ça repart dans la phrase même de celui qui se plaint. Il y a un nouveau souffle qui commence. Et c'est cette vitalité que j'ai essayé de faire entendre, contrairement à l'image qu'on a de Dostoïevski. Donc, attendez-vous à un Dostoïevski insolite.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission spéciale aujourd'hui avec Julia Kristeva qui nous reçoit chez elle à Paris pour cette conversation littéraire autour de Dostoïevski, titre du livre que vous consacrez à l'écrivain russe dans la collection Les auteurs de ma vie chez Buchet-Chastel. On l'a dit en début de cet entretien, vous avez lu L'idiot très jeune en Bulgarie et ensuite plus tard vous retrouvez Dostoïevski en France au milieu des années 60. Mais est-ce que lire Dostoïevski en français vous a procuré une sensation, une compréhension différente peut-être de votre première lecture en langue bulgare, Julia Kristeva ?
Enfin, ça c'est une très belle question parce qu'elle nous renvoie à la traduction de Dostoïevski. Il y en a beaucoup, et même au début, lorsque de Vauguet s'y était attelé, les Français se sont rendus compte de la difficulté. Parce que la phrase de Dostoïevski défie la logique cartésienne. Ce sont des longues périodes qui disent parfois le contraire du début. Il y a des adverbes qui sont dans l'approximation et le flou. Peut-être, je sais pas trop, on verra. Et une que je vous ai préparée parce que c'est vraiment le comble du comble. Cela semble comme parfaitement certain, peut-être. On sait pas très bien ce qu'ils disent. Et alors, le traducteur français essaye de mettre ça en bon français. Ils disent, mais quand il y a des flous comme ça, c'est le génie slave, ça ne nous intéresse pas. Alors, quand j'ai commencé à lire Dostoïevski en français, pour les auteurs de ma vie, je ne trouvais pas le Dostoïevski tel que je l'avais lu, avec cette vocalité, avec ce tâtonnement qui cherche le vrai, y compris en s'y perdant et en donnant une mauvaise image d'homme idiot ou d'homme criminel ou tout ce que vous voulez, mais à la limite du deuil de fond 4. Et finalement, j'ai trouvé ce souffle dans la traduction d'André Markovitch, qui est très vocal et très proche de l'incertitude, mais en même temps de la vitalité de Dostoïevski. Il a rendu aux Français son génie de se lâcher, de tout dire, sans avoir peur du sacré. Donc je pense que c'est celui-là qui va me rester.
Alors vous l'avez en effet dans vos bagages depuis longtemps, Dostoïevski, Julia Kristeva, même au sens propre du terme, puisque quand vous arrivez en France en 1965, vous n'avez, je vous cite, que $5 en poche et un livre de Mireille Bartine, voilà, sur Dostoïevski. On peut dire que vous aimez les contrastes de la monnaie américaine, de la littérature russe au pays du nouveau roman.
C'est la vie. C'était ce qui m'a proposé l'actualité. Et en portant Dostoïevski, comme je vous disais, c'est le général de Gaulle et lui qui m'ont ouvert les portes de la France avec Tel quel et Solaire, évidemment.
Où général de Gaulle, d'ailleurs, qu'on salue puisque nous sommes dans la semaine où est célébré, où est commémoré le 80e anniversaire de son célèbre appel du 18 juin 1940 à Londres.
Nous sommes très actuels.
Si Dostoïevski paraît dans cette collection Les auteurs de ma vie, Julia Kristeva, vous avez d'autres auteurs aussi dans votre vie, puisqu'il y a eu les trois femmes, Hannah Arendt, Melanie Klein et Colette, respectivement philosophe, psychanalyste et romancière, à qui vous avez consacré ce qui va devenir cette trilogie Le génie féminin. Trois personnalités d'ailleurs dont vous dites qu'elles n'ont pas pour autant été ni un miroir, ni un modèle. Mais de fait, quel est l'apport alors de cette promiscuité avec tous ces auteurs sur votre vie et sur votre pensée ?
Je n'avais pas écrit sur le féminisme. Et mes étudiantes m'ont dit que le féminisme attend que quelqu'un comme moi, qui a parlé de la littérature, de la philosophie, qui a inspiré beaucoup de jeunes chercheuses, s'exprime sur le féminisme. Et tout ce que j'ai appris de la littérature, y compris dostoïevskienne, mais aussi française, c'est que, je crois l'avoir dit tout à l'heure, il n'y a de liberté qu'au singulier. Et j'essayais de montrer, en me repenchant sur l'œuvre des femmes, en quoi consiste le génie féminin, c'est-à-dire la singularité des femmes qui apporte quelque chose de spécifique à chaque fois et qui ne se limite pas à la massification. Donc ce que j'ai cherché, moi, chez ces femmes que j'ai choisies pour donner une image de la percée qui est épocale et on continue à la vivre, y compris dans la lutte contre le racisme aujourd'hui, la place des femmes est extraordinaire, contre le virus aussi, cette percée, moi, je n'aimerais pas la contenir dans un schéma ou une étiquette pour faire une force révolutionnaire comme il y a eu tous les ouvriers, tous les bourgeois, tout le tiers-monde et tous les femmes et tous les gays. On est des individus singuliers. Et ça, c'est la grande contribution de notre tradition gréco-judéo-chrétienne, la singularité de l'homme et de la femme.
Donc, si ce ne sont ni des modèles, ni des miroirs,
ce sont des expériences.
Et ce féminisme, donc, vous l'avez retrouvé dans l'œuvre de Dostoïevski?
Alors, c'est un féminisme très particulier d'un homme de la fin du XIXe siècle. Mais tous ces personnages sont des parties de son féminin à lui et sont des hauts lieux de la féminité. Dostoïevski est un grand amoureux du corps féminin et il se rend compte que ces figures, que ce soit Nastassia Philipovna qui est une reine, une fière, une battante, ou la boiteuse qui est une femme soumise et croyante, ou la Krotkaya, la douce qui se tue, qui finissent mal. Il y a une espèce de féminicide dans cette société totalitaire, tsariste, et pas seulement bourgeoise, aujourd'hui aussi, il est très moderne dans cette espèce de manière de saisir le féminicide comme trait de société monothéiste, on va dire, pour aller vite. Eh bien, il essaye d'entrer dans la force vitale du féminin et son féminisme montre combien cette féminité est menacée. Et il est celui qui fait une espèce de galère de féminicide qui fait que les héros sont des héroïnes. Ceux qui tuent sont des salopards et celles qui sont tuées sont les grandes figures. C'est cette vision, je crois, d'un certain féminin à l'époque battu, mais qui survit parce qu'elle voit la société, dit les vérités, c'est pour ça qu'on la tue.
Et vous, Julia Kristeva, quelle féministe êtes-vous ?
Atypique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je me reconnais dans aucun mouvement, mais je pense que j'essaye d'accompagner celles qui cherchent leur voie singulière, dans l'urgence de la vie, comme vous dites.
Atypique, précisément, vous l'êtes à plusieurs égards, parce que après bientôt 50 ans de votre installation en France, vous dites être toujours une étrangère, et même vous revendiquez presque être une étrangère. Pourquoi Julia Kristeva ?
Parce que, voyez, tous ces personnages que Dostoïevski découvre chez les autres, ce sont des étrangers au sens de ne pas être conformes, des « don't fit », ils n'entrent pas dans le moule. Je crois que nous sommes chacun plus ou moins étrangers. Un de mes premiers livres qui a été honoré, ça s'appelle « Étrangers à nous-mêmes ». L'analyste cherche cette part étrange de chacun, non pas pour la cultiver au sens de l'installer, de la caresser, de la valoriser, mais de la développer comme noyau de la créativité. Essayer de la décliner, de lui donner des mots, des sons, des couleurs et de la partager. Cette étrangeté est partageable et c'est seulement comme ça que la société devient plurielle. Sinon, on n'a qu'un seul commun dénominateur et on est dans la banalité du mal.
Mais si vous vous sentez étrangère, où est-ce que vous vous sentez chez vous, Julia Kristeva ?
À l'île de Ré.
Parce que c'est une île et qu'il y a une insularité aussi qui est une forme de cocon.
Je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi l'endroit où nous habitons et on est exposé à la mer et au clocher d'Ars. Et aussi parce que c'est un lieu de survie par l'écriture. On n'est pas confiné parce qu'il n'y a pas de limite. On est ouvert à la nature. Mais il y a une invitation au dépassement de soi, à l'éclosion. Je dirais pas à la transcendance, mais à l'éclosion. Et il y a beaucoup de fleurs dans notre jardin.
Et quel est votre lien avec la Bulgarie aujourd'hui ?
Les frères Cyril et Méthode, les inventeurs de l'alphabet. C'est la seule chose qui m'attache à la Bulgarie maintenant à travers mille épreuves.
Qui était une fête nationale, n'est-ce pas ?
Qui était une fête nationale et où je manifestais avec les autres élèves en incarnant une lettre de l'alphabet. Je suis une lettre de l'alphabet. C'est le seul pays au monde où les gens vivent cette expérience. Et ça vous montre combien la parole, mais surtout l'écrit, devient une sorte de terrain de reconstruction de soi. Donc je maintiens des liens intellectuels avec des gens, mais on parle peu le bulgare. Et je crois que je serais incapable de tenir ce que nous tenons maintenant
Dans votre langue maternelle.
Voilà. Mon seul pays, c'est... maintenant, je vais vous paraître très mystique, mais c'est Saint-Augustin qui me donne une formule et qui est le titre de mon livre. Un seul pays, le voyage. In via in patria. Il n'y a pas d'autre pays que le voyage.
Et c'est pour ça que votre autobiographie
s'appelle « Je me voyage »
a paru sous ce titre voilà. À la fois énigmatique mais tellement poétique.
Mais ça fait, c'est aussi, comment vous dire, un aveu d'étrangeté parce qu'on ne dit pas tout de suite « ça frappe », on ne dit pas en français « je me voyage », on dit « je me lève »,« je me tue » éventuellement, « je me promène ». Mais pas je me voyage, je fais un voyage, je pars en voyage. Mais je me voyage est déjà une expression de quelqu'un qui parle pas le français de l'intérieur, qui est un étranger, quoi. Qui est une étrange. Donc je voulais à la fois que ce soit une invention, si on veut, et puis une marque d'étrangeté.
Merci beaucoup. On va se quitter sur ce mot alors, étrangeté. Et je rappelle, Julia Kristeva, que vous êtes donc l'auteur de cet essai intitulé Dostoïevski, qui est apparu dans la collection Les auteurs de ma vie chez Buchet-Chastel. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à Marc Fichet qui a enregistré notre entretien aujourd'hui. Et je vous dis avec un petit peu d'avance, bon anniversaire, Julia Kristeva.
Merci, oui, c'est bientôt, la semaine prochaine. Merci à vous.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
en sol majeur.